Chers auditeurs, bonjour, merci d'être à notre écoute et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Dans le récit de la création tiré du premier livre de la Genèse, on peut lire les mots bien connus « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme ». Quelques lignes plus loin, après avoir mangé le fruit défendu, Adam et Ève, à cause de leur péché, prennent conscience de leur nudité et masquent les parties de leur corps qu'il ne convient ni d'exposer, ni de regarder. Cette scène apparaît non seulement dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, mais aussi dans le Coran. Cette scène, vous l'aurez compris, pose la question si délicate des rapports du religieux et du corps. Or, le plus souvent, nous avons tendance à les opposer. Le soin de l'âme étant bien plus important aux yeux des religions que le soin du corps. Pourtant, comme souvent en histoire, la réalité est bien plus complexe, bien plus nuancée. Parce que, précisément, l'homme a été créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas honorer Dieu lui-même que de prendre soin de son corps ? Storia Voce vous propose aujourd'hui de répondre à cette question et de partir à la découverte du corps à travers les trois livres sacrés que sont la Bible hébraïque, le Nouveau Testament et le Coran. Fabrice Agacian, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Storia Voce. Vous êtes ancien journaliste, ethnographe et vous venez de publier aux éditions du Cerf un ouvrage magistral, très richement illustré avec une iconographie d'une grande richesse, pardon, un livre à la croisée de l'histoire des cultures, de l'histoire des civilisations et des sociétés et naturellement de l'histoire des religions. Ma première question, Fabrice Agacian, est assez simple. On est surpris de voir dans ce livre, qui est un livre qui présente l'histoire donc du corps face aux religions, dans les fameux trois livres, de voir qu'il y a une correspondance avec notre époque actuelle et qu'au fond tout ce que faisaient avec le corps les gens, la population aux temps antiques, eh bien aujourd'hui nous repassons par les mêmes chemins qu'eux et nous faisons exactement la même chose.
Oui, on peut effectivement retrouver beaucoup de points communs entre ce qui se pratiquait dans l'Antiquité et dans l'Antiquité tardive et certaines pratiques contemporaines à des différences près. Et ces différences sont peut-être importantes du point de vue spirituel ou du point de vue religieux. Ces différences, elles concernent essentiellement ce que l'on met derrière les pratiques cosmétiques. Je m'explique. Vous disiez tout à fait, de manière tout à fait pertinente, que effectivement l'homme et la femme ont été façonnés par Dieu. C'est ce qui figure dans les textes des trois religions monothéistes, voire éventuellement à l'image de Dieu, et que prendre soin de son corps, c'est finalement honorer Dieu, mais dans certaines limites. Et ses limites étant qu'il convient de préserver, pas d'embellir. Pas d'embellir parce que nul n'est censé retoucher l'œuvre de Dieu. Tertullien le disait déjà, mais c'est repris aussi par le Coran et les hadiths, c'est-à-dire les commentaires autour des faits édits du prophète dans le domaine de l'islam. Pas d'embellir, et par conséquent, certaines pratiques, comme le maquillage ou le tatouage, certaines pratiques qui sont soit particulièrement visibles, soit qui modifient le corps de manière durable, c'est le cas des tatouages, sont interdites. Elles sont interdites, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne soient pas pratiquées. On voit qu'il existe certaines tolérances ici ou là. À propos du tatouage, peut-être qu'il faut que je m'en explique, je reviendrai sur le sujet, c'est que on voit une très précise segmentation au niveau des pratiques de tatouage entre les sociétés étatiques et les sociétés tribales. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, jusqu'à un passé relativement récent, c'est-à-dire jusqu'à ce que la mode du tatouage revienne dans nos cultures, cela est resté vrai. Cela est resté vrai, pourquoi ? Parce que dès l'origine, enfin dès l'Antiquité, on voit que, en ce qui concerne les sociétés étatiques, le tatouage est la marque d'une infamie. C'est le tatouage infamant qui est attribué aux prisonniers, aux esclaves, et notamment aux esclaves qui se sont échappés. Au contraire, du côté des sociétés tribales, on va trouver une pratique d'embellissement et une pratique du tatouage symbolique. C'est-à-dire qu'il est censé avoir une action apotropaïque, c'est-à-dire qu'il est censé préserver du mauvais sort, voire curative dans le cas de certaines douleurs, notamment au niveau des articulations, et une fonction d'embellissement. Et l'islam en particulier a toléré ces pratiques, puisqu'elles sont encore aujourd'hui pratiquées au Maghreb et en Irak d'ailleurs, dans toutes les sociétés tribales. Et donc ce que je veux dire par là, j'ai pris cet exemple du tatouage, parce que en réalité, la pratique du tatouage contemporain dans nos sociétés modernes a totalement perdu de vue que c'était à la fois une pratique infamante dans certains cas ou une pratique symbolique dans d'autres. Et donc c'est cette dimension symbolique attachée au geste de beauté qui s'est peu à peu perdue. Mmh.
Alors, il y a une chose qui est très importante dans ce que vous avez dit, c'est que il y a une certaine mesure, c'est le terme que vous avez utilisé, dans le soin du corps, on se doit de respecter son corps. Si on se doit de respecter son propre corps, c'est parce que son corps, notre corps, dans ces sociétés, ne nous appartient pas. C'est-à-dire qu'il appartient à Dieu, finalement, puisque c'est Dieu le créateur. On a du mal à se représenter cela aujourd'hui dans notre monde individualiste.
Oui, dans le monde individualiste, on a du mal à se le représenter. Mais l'explication de cela tient au fait que dans ces sociétés-là, et d'une certaine manière, dans certaines parties de notre société encore, la preuve de l'obéissance à la parole divine se traduit par une certaine discipline des corps. Cette discipline des corps, elle se traduit au quotidien. Mmh. Ce sont les prières, ce sont les rites qui occupent les différents moments de la journée, ce sont les jeûnes, ce sont les pèlerinages, et par conséquent, on voit que à travers cette discipline des corps se matérialise le fait que l'on obéit à Dieu ou pas. Mmh. Et par conséquent, tout ce qui va toucher le corps, et notamment tout ce qui est embellissement, risque de montrer qu'on est en dehors de l'obéissance à la parole divine. Au demeurant, il faut bien reconnaître l'idée que les peuples du monothéisme, que ce soit les juifs, que ce soit les premiers chrétiens et que ce soit plus tard les musulmans, se comportent comme la majorité des sociétés de l'époque se comportent elles-mêmes. C'est-à-dire que oui, certes, le maquillage est pratiqué par les anciens grecs, et on sait que toute cette région est largement hellénisée à partir de l'arrivée des armées d'Alexandre, mais il y a une certaine réprobation de la part des philosophes, de la part des satiristes, sur les comportements outranciers à l'égard des femmes et encore plus des hommes qui, par hasard, pourraient se maquiller. Peut-être Puis-je poursuivre à propos du maquillage ? Entre les hommes et les femmes, ce qui les distingue, ce qui est très important aussi, et qui est vrai pour les trois religions, c'est la différence sexuelle, les marqueurs sexuels. Que ce soit la longueur des cheveux, que ce soit la couleur du teint, que ce soit les vêtements, à chaque fois, cela va devenir des marqueurs sexuels, qui distinguent l'homme de la femme, par conséquent. Le teint, la couleur du teint est l'un de ces marqueurs. La femme doit avoir la peau pâle, pour du visage pâle, et les hommes doivent avoir le teint hâlé. Alors ça, c'est un marqueur très fort du côté des Grecs. La femme doit rester chez elle, à s'occuper de sa maison, notamment, c'est vrai pour les citoyens, c'est-à-dire ceux qui habitent à l'intérieur des cités, c'est naturellement moins vrai pour les gens qui habitent à la campagne, mais la femme doit rester à la maison, s'occuper de sa domesticité, prendre soin de tout cela, et plus elle aura le teint pâle, plus elle marquera le fait qu'elle passe peu de temps à l'extérieur. À l'inverse, l'homme doit s'occuper des travaux guerriers, des travaux sportifs, et doit passer son temps à la palestre, et exposer son corps dénudé, à l'époque des Grecs, au rayon du soleil, et donc paraître tanné. Certains hommes n'apprécient pas tellement ce genre d'activité, ça a toujours existé, ça existe encore, et ils ont recours, pour faire croire qu'ils s'exposent aux rayons du soleil, à une argile ocre qu'ils s'appliquent sur la peau, c'est une poudre qui s'appelle le miltos, et cela tombe sous le coup des caricaturistes, des satiristes et des philosophes qui les critiquent ouvertement et qui les critiquent aussi violemment qu'ils critiquent les femmes qui utilisent la céruse qui est destinée à obtenir un teint pâle.
Et c'est ça qui a des... qui est en lien finalement avec nos sociétés aujourd'hui, parce que on se moque très facilement des femmes qui surutilisent la chirurgie esthétique aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de chirurgie esthétique. En revanche, il y avait ce maquillage, et trop de maquillage provoquait facilement la moquerie. Je reviens à la question de la spiritualité, parce que elle transparaît vraiment dans votre ouvrage. Dans les premières lignes, vous distinguez le soin physique du soin moral, et vous avez une belle phrase qui dit « Le bain nettoie ». Donc c'est le soin physique du corps, mais l'ablution, elle, purifie. Et ces ablutions sont, on le sait par exemple dans chez les musulmans, on le voit facilement, mais l'eau est très présente dans le Nouveau Testament, elle est même surprésente à travers le baptême, à travers Ponce Pilate qui se lave les mains, etc. Donc il y a vraiment un sens spirituel aussi aux soins du corps.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est d'ailleurs assez intéressant et qui, d'une certaine manière, va teinter tous les usages cosmétiques dans l'Antiquité, c'est que les deux produits majeurs des soins du corps dans l'Antiquité, que sont les parfums d'une part et l'eau d'autre part, sont d'abord destinés aux dieux. C'est-à-dire que les parfums de l'époque, ce sont des huiles. C'est-à-dire les parfums alcooliques n'ont été inventés qu'aux alentours du XIVe siècle, et par conséquent, les premiers parfums sont des huiles. Et les deux formes sous lesquelles ils existent, c'est-à-dire des résines que l'on brûle ou des huiles que l'on applique en onction, sont d'abord destinées aux dieux, je dis dieux au pluriel, avant que les monothéismes ne naissent. Et donc, à chaque fois que l'on va les utiliser, il va y avoir ces associations symboliques avec ces vertus spirituelles qui sont attribuées et ces vertus de purification. Car c'est de cela dont il s'agit, et c'est à cela que vous faisiez allusion, la purification. Il y a une distinction très grande qui s'est peu à peu perdue à notre époque, dans l'Antiquité, entre la salissure et la souillure. La salissure, c'est la saleté qu'on a sur le corps. La souillure, elle est d'ordre moral. Et lorsque l'on est souillé, et que ce soit le Lévitique dans la Bible hébraïque ou le Coran, qui liste les différentes causes de souillure, lorsque l'on est souillé, pour une raison ou pour une autre, il faut se purifier. Se purifier pour de nouveau avoir accès à une dimension sacrée, ou un espace sacré qui est le lieu où la divinité est célébrée. Et cela aussi, ça s'est en grande partie perdu, sauf naturellement chez les pratiquants de religion à notre époque, cette dimension qu'il existe, cette idée qu'il existe une dimension sacrée et une dimension profane, les deux étant clairement distinctes l'une de l'autre. Et effectivement, tous les rites d'ablution que l'on voit encore du côté de l'islam, ou simplement le fait de prendre de l'eau bénite au moment où on entre dans une église pour faire le signe de croix, ce sont des rites de purification véritablement qui permettent de distinguer le fait que l'on quitte une zone profane pour entrer dans une zone sacrée. Il faut dire d'ailleurs, j'étais très, si vous voulez, j'ai commencé à réfléchir à ce livre le jour où, à travers les études, j'ai beaucoup travaillé au niveau international dans l'industrie cosmétique, et je me souviens d'études qu'on avait conduites dans des pays musulmans. Et dans ces pays musulmans, il y avait rythmant la journée, de manière régulière, c'était en Indonésie, des gestes d'ablution. Les études que nous menions, c'était des études ethnographiques, c'est-à-dire que les individus étaient filmés, interviewés, etc. Et lorsque ces résultats étaient présentés à des personnes dans le domaine du marketing, par exemple, qui se trouvaient en France en particulier, elles lisaient ces gestes comme des gestes d'hygiène. Elles avaient beaucoup de difficultés à comprendre que ces gestes avaient peu à voir avec l'hygiène et beaucoup à voir avec une attitude morale, avec une attitude de purification. Et je me suis dit qu'il y avait un manque qu'il fallait un jour combler.
D'où votre livre. Alors, votre livre est divisé en trois grandes parties. La chevelure, tout d'abord, et c'est, on va dire, même la partie la plus importante en nombre de pages, celle du corps et puis celle du visage, bien évidemment. Alors, la chevelure, et c'est vrai que quand on se promène, par exemple, dans un musée, on voit souvent dans les musées de toutes les villes la présence de peignes, de pinces à cheveux. Et ce sont des éléments qui sont extrêmement importants et qui montrent tout le soin qui était apporté, à la chevelure, ceci depuis la nuit des temps. Il y a une chose qu'on n'a pas dite au début de l'émission, c'est que votre livre, finalement, il s'inscrit dans une chronologie extrêmement large, puisque il commence avec Abraham et il se termine avec la rédaction du Coran. Et donc c'est, on ne se rend pas compte, mais plus de 1700 ans. Voilà.
Oui, la rédaction du Coran, en réalité, il se termine avec le premier manuscrit datable avec précision du Coran qui nous soit parvenu.
Ça veut 878.
Dire, voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il n'en ait pas existé d'autres, mais c'est le seul qu'on ait retrouvé complet à ce jour. Et donc, j'ai choisi cette date arbitrairement pour clore le livre, qui s'arrête donc au 9e siècle. Et donc, tout ce que je dis à l'intérieur du livre, même si à plusieurs reprises je fais des parallèles avec ce qui se pratique aujourd'hui, s'arrête aux alentours du 9e siècle.
Alors, la chevelure. La chevelure, c'est un... Il y a énormément de symboles. Il y a d'abord le sentiment d'appartenance. On se coiffe pour montrer une appartenance.
La première chose que l'on voit d'un individu, c'est la chevelure. C'est avant de voir son visage, si on le voit de dos, etc.
Quand vous êtes entré ici dans cette pièce, vous m'avez regardé. Vous avez regardé d'abord ma chevelure.
Écoutez, effectivement, il y a des études qui démontrent que la chevelure, c'est pas le seul élément, mais c'est l'un des éléments déterminants qui permettent de classifier les individus. D'accord. Et c'était déjà vrai dans l'Antiquité. Ouais. Et notamment, ça permet de les classifier. Alors, prenons d'abord des classifications simples et qui parleront à tout le monde, qui paraîtront évidentes à tout le monde. Les jeunes des vieux. Des cheveux blancs, des cheveux qui ne le sont pas. Les hommes des femmes. La plupart du temps, à la fois par la couleur et par la longueur. Mais dans l'Antiquité, ça permet aussi de distinguer les gens d'origines diverses. Et dans les cités antiques, notamment dans cette région que constitue Canaan puis la Palestine, c'est un lieu de passage. Les gens viennent de partout. Et donc ça permet effectivement de distinguer les gens, mais ça permet aussi de distinguer les croyants des non-croyants, ceux qui appartiennent à certaines cultures et d'autres pas. Il y a un passage dans la Bible, et dans la Bible hébraïque, qui interdit de se couper les cheveux en rond. Et on retrouve les traces d'une telle pratique chez Hérodote, et on pense que c'était une culture arabe de l'époque, qui était associée au culte d'un certain dieu, qui recommandait effectivement de se couper en rond. Couper les cheveux en rond, qu'est-ce que ça veut dire? Globalement, on imagine à peu près la situation, ça correspond à la coupe au bol du Moyen-Âge. On pose un bol sur la tête, on coupe tout ce qu'il y a autour, et évidemment, ça dépend de la largeur de bol, on a une coiffure coupée en rond. Vous avez parlé de la chevelure et je parlerai plus volontiers de la coiffure parce que les perruques sont largement portées dans la culture égyptienne durant toute l'Antiquité et les perruques elles-mêmes sont coiffées. Elles sont coiffées quotidiennement. On y applique de l'huile, on se sert des pinces que vous évoquiez pour remettre les boucles en forme, etc. Je dirais que en ce qui concerne la coiffure, il y a schématiquement deux grandes époques. Une époque qui précède le IVe siècle, pendant laquelle les hommes comme les femmes portent les cheveux longs. Et lorsque Paul de Tarse, dit saint Paul, déclare dans une lettre aux Corinthiens « La nature ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme que de porter les cheveux longs alors que c'est une gloire pour la femme de les porter ainsi ?» Il oublie où il feint d'oublier que, en réalité, la mode des cheveux courts pour les hommes est arrivée avec les armées d'Alexandre. Elle est arrivée avec les armées d'Alexandre pour raison très pragmatique, c'est qu'Alexandre demandait à ses soldats de porter la barbe et les cheveux courts. Très pragmatique pourquoi? Parce que dans les combats au corps à corps, l'une comme l'autre représente une prise possible pour l'adversaire. Et donc, les soldats d'Alexandre sont arrivés dans le Proche-Orient avec les cheveux courts et ils ont lancé la mode.
Alors, il y a donc des coiffeurs. Et ça aussi, ça a été pour moi une grande découverte. C'est de voir qu'il y a tout un environnement professionnel tel qu'on le conçoit aujourd'hui, des hommes, des experts en quelque sorte, qui ont des outils. Alors, il y a beaucoup d'outils, il y a les épingles à cheveux, il y a le fer à friser, il y a bien évidemment les peignes, vous avez évoqué les perruques. Arrêtons-nous quelques instants sur le miroir, parce que oui. Il y a tout un symbolisme dans le miroir.
Il y a un symbolisme extraordinaire dans le miroir, qui vient probablement du fait de deux ou trois faits. D'abord, il y a cette mise en abîme du regard. Le regard qui observe et le regard qui est observé dans le miroir. Donc il y a une mise en abîme extrêmement troublante. Mais plus loin, le miroir servait dans les premiers temps aussi à regarder la course des étoiles sans avoir à lever la tête. Et donc on voyait cette espèce de symbolisme qui fait que ce qui est en haut était un peu comme ce qui est en bas, qu'il y avait une dimension spirituelle là-dedans. Et il y a aussi toute la magie qui est associée au miroir. Au début, ce sont des miroirs de métal poli. Alors, de bronze ou d'argent, en fonction de la richesse des individus qui l'utilisent. Mais le propre des miroirs polis, c'est que peu à peu, ils se ternissent s'ils ne sont pas bien polis. Leur surface n'est pas toujours parfaitement plane. Et donc, ce que l'on voit à l'intérieur est en partie imparfait. Hein, ce qui fait dire aussi, je crois que c'est Paul aussi, Paul de Tarse qui en parle, il dit, mais lui, c'est une image pour la représentation des siècles à venir. Nous voyons aujourd'hui à travers un miroir d'une manière floue. Et il fait allusion effectivement à l'imperfection des miroirs antiques.
Alors, la tête est parfois couverte. Nous ne l'avons peut-être pas assez dit, mais nous sommes dans un monde très cosmopolite, avec un échange des cultures, un brassage, des passages, etc. Et vous montrez que le voile qui est utilisé aujourd'hui dans la religion musulmane, alors d'abord il y en a plusieurs types, vous en donnez toutes les définitions, vous en montrez des photos, mais ce n'est pas une invention, d'abord ce n'est pas une invention du monde musulman, premièrement, et deuxièmement, concernant le monde musulman, vous dites que nous n'avons pas vraiment de certitude quand on lit les différentes sourates sur le sujet de l'obligation pour une femme que de porter un voile.
Naturellement, tous les textes fondateurs des trois monothéismes sont des textes qui ont été dont le canon a été fixé il y a plusieurs siècles, et par conséquent, la manière dont ils doivent être lus, compris, et dont leurs recommandations doivent être suivies, ces manières sont sujettes à interprétation. Elles l'ont toujours été. Et c'est vrai à propos des quatre versets du Coran qui concernent le voile. Pour bien comprendre, alors il faudrait se référer à ce qui était écrit dans le livre sur le sujet, mais pour bien comprendre, il faut se référer aux traductions du mot voile dans le Coran. C'est-à-dire que ça n'est pas toujours le même mot qui est utilisé. C'est un mot qui a pour synonyme rideau dans certains cas, etc. Et donc, ce que l'on voit à propos du voile, c'est, il faut replacer aussi les choses dans leur contexte. C'est que déjà dans la culture grecque, les femmes avaient, il était convenable qu'elles portent le voile, au moins pour couvrir leurs cheveux, et qu'elles se voilent le visage en certains cas. Évidemment, elles n'avaient pas le visage voilé en permanence. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est à l'intérieur même de l'islam, les divergences qui ont pu apparaître. C'est-à-dire que pendant longtemps, les femmes qui vivaient à la campagne ne portaient pas le voile. Travailler dans les champs en portant un voile était quelque chose de tout à fait impossible. Et les sociétés dans lesquelles le voile s'est imposé, c'est sociétés dans lesquelles il existait déjà, d'une certaine manière. On pense en particulier à la Mésopotamie, où les femmes mariées portaient le voile comme on porte une alliance. C'est-à-dire, non pas comme une obligation ou comme une contrainte, mais elles le portaient, et c'est d'une manière qui annonçait le fait qu'elles étaient femmes mariées. Une autre contradiction est celle du litam des Bédouins. Que ce soit dans le Sahara, que ce soit dans le désert irakien, les hommes portaient le voile. Ils portaient le voile pour des raisons très pratiques, comme on peut l'imaginer, pour se protéger de la poussière, du vent, du soleil, etc., lorsqu'ils traversaient des zones désertiques. Par contre, leurs femmes n'étaient pas voilées. Et pendant longtemps, il y a eu une discussion au Maroc, en particulier entre les Almohades et les Almoravides, dont les uns portaient le voile, dont les hommes portaient le voile et les autres pas. Et cette discussion portait sur le fait qu'ils ne respectaient pas les règles du Coran. Et donc, on voit bien qu'il y avait des divergences possibles et qui sont apparues ici et là.
Alors, autre découverte toujours sur la religion musulmane, moi je pensais à tort visiblement que la barbe était une forme d'obligation. Or, ce n'est pas du tout le cas. Vous accordez bien évidemment une place importante à la barbe dans le chapitre sur les visages.
Non, la barbe n'est pas une obligation. En fait, le prophète portait la barbe, mais il disait que la barbe devait avoir la longueur qui tient dans la main, et c'est là qu'on va retrouver des règles qui étaient celles des soldats d'Alexandre, c'est-à-dire ne pas avoir une barbe trop longue. Tout ça, c'est exactement ce que j'expliquais à propos de la chevelure, hein. C'était ni la barbe, ni les cheveux longs. Et en ce qui concerne la barbe, elle doit aussi être coupée juste au-dessus des lèvres, de la largeur, dit-on, d'un bâton de souak ou de siwak, de manière à ce que, lorsque l'on mange, on ne salisse pas. Là, il faut comprendre que l'islam se revendique la religion de la propreté. Et d'ailleurs, je viens d'évoquer le bâton de siwak ou de souak, qui était une manière antique de se laver les dents. Alors, ça ressemble plus ou moins à un bâton de zan. Si vous en mâchez l'extrémité, en fait, il se produit des fibres assez rigides, et le mélange de la salive avec le suc du produit génère un mélange nettoyant. On peut donc s'en brosser les dents, c'est véritablement une brosse à dents, qui est photographiée dans le livre. Et Mohammed, le prophète, aurait souhaité que les fidèles se lavent les dents tous les jours et faire du lavage des dents une pratique rituelle, une ablution rituelle. Malheureusement, à l'époque, il a considéré que c'était probablement mettre sur les épaules des croyants un poids trop lourd. Donc, il a renoncé.
Le henné, c'est une forme de tatouage?
Le henné, c'est incontestablement une forme de tatouage. C'est un maquillage, si vous voulez, dans la mesure où, effectivement, ça va s'estomper au fil des jours, voire des mois, mais c'est un maquillage.
Vous donnez la signification de la main de Fatma, hein, en représentant à la fois la main de Fatma et une main qui est précisément couverte de, non pas d'arabesques, mais de motifs plus ou moins floraux. Quel est le sens de cette main?
En fait, ce qui est important dans la main de Fatma, la main de Fatima, ou la main de Myriam, lorsque les Juifs y font référence, c'est le chiffre 5. C'est-à-dire le chiffre 5 a une valeur symbolique, une valeur apotropaïque, c'est-à-dire qu'elle protège du mauvais sort dans le monde musulman et probablement dans le monde pré-islamique. Et donc, les 5 doigts de la main symbolisent ce chiffre 5 qui a une fonction protectrice.
Alors, vous disiez, vous évoquiez le fait que la religion musulmane soit une religion où la propreté est extrêmement importante. C'est dans le monde musulman et arabe qu'apparaissent les premiers bains?
Non, les premiers bains apparaissent avec le monde grec. En fait, ils existent déjà en Grèce.
Les bains publics, hein, j'entends.
C'est aux bains publics, effectivement, que je pensais. Les bains publics apparaissent au moment où Alexandre apparaissent au Proche-Orient, au moment où ils existent déjà en Grèce, au moment où Alexandre le Grand conquiert toute la région. Ce sont des bains publics qui constituent au début uniquement une annexe au stade, enfin une annexe à la palestre, là où les athlètes viennent faire leurs exercices nus. Et le but initial des bains publics, c'est la stimulation du corps, moins leur lavage. La stimulation du corps, c'est-à-dire qu'on passe alternativement dans des bains chauds et froids après s'être entraîné à la palestre, et on obtient cette stimulation. Peu à peu, ces bains vont évoluer, notamment à partir du moment où les Romains vont dominer la région, où les Romains vont les transformer en thermes. Et la balance entre la palestre, l'équilibre entre la palestre et les bains va s'inverser. C'est-à-dire que les bains vont devenir plus importants que l'exercice sportif. Et d'ailleurs, ils vont prendre des dimensions tout à fait impressionnantes. Ils vont devenir de véritables palais, avec des marbres partout, etc. Et on va pouvoir non seulement s'y baigner, mais avoir recours à des coiffeurs, des épileurs, on s'épile beaucoup, on se rase beaucoup, il y a des bibliothèques, il y a des endroits pour se restaurer, il y a des jardins, etc. Bref, il y a suffisamment de choses, suffisamment de, d'intérêt, de centre d'intérêt, pour qu'on y passe la journée. Certains ne s'en privent pas.
C'est-à-dire que c'est également un lieu de sociabilité.
Absolument, c'est un lieu de sociabilité. On y rencontre, c'est un lieu obligatoire. C'est-à-dire, il faut y passer. C'est là qu'on se rencontre. Et au moment où les Arabes musulmans envahissent la région, en fait, ils arrivent sur les terres byzantines. Les Byzantins sont les héritiers de Rome et de la Grèce. C'est-à-dire qu'ils ont construit aussi des bains publics un peu partout. C'est l'Empire romain d'Orient. Et les Arabes musulmans découvrent les bains publics et les adoptent. Et les transforment en hammams. Et l'extraordinaire paradoxe de cette histoire, c'est que le hammam est devenu le symbole de la culture musulmane, alors que c'est un héritage grec. La fonction sociale du hammam va, elle aussi, exister, tout comme elle existait dans le monde grec. Elle va se pérenniser. Elle va se pérenniser, et notamment avec une dimension tout à fait symptomatique, qui est que c'est le lieu pour les femmes. Les femmes dans le monde musulman, mais c'était vrai aussi dans le monde grec, ont eu beaucoup de difficultés à pénétrer à l'intérieur des bains publics. On y est nu au début. Faut-il que ce soit des bains mixtes, faut-il que ce soit des bains séparés pour les hommes et pour les femmes? Des discussions vont aller bon train sur le sujet pendant des siècles. Finalement, les femmes vont être acceptées dans le hammam avec des zones réservées ou des heures réservées par rapport aux hommes, et elles vont y être seules. C'est-à-dire que c'est le seul endroit où le regard de l'homme ne pénètre pas. C'est le seul endroit où les femmes vont se retrouver entre elles, et ça va devenir le lieu où vont se transporter les rumeurs, une espèce de place publique pour les femmes, où vont se contracter les projets de mariage, les projets matrimoniaux, et puis pour les hommes, où vont se traiter les affaires.
C'est très important, parce que est-ce que c'est une forme de volonté de préserver une intimité? Il y a dans la Bible hébraïque, hein, si mes souvenirs sont bons, des mots très importants sur la nudité, le père qui ne doit pas voir forcément son fils jusqu'à un certain âge nu, ou bien sa sœur, etc., etc. L'intimité est très présente du fait du péché originel.
Oui, alors la nudité dans la Bible hébraïque, c'est souvent un terme utilisé pour désigner en réalité le coït. Et il y a de nombreuses recommandations concernant qui sont formulées de la manière suivante, et la liste est très longue, donc je ne vais pas l'énumérer, mais tu ne découvriras pas le corps de ta sœur, tu ne verras pas la nudité de ta sœur, et tu ne verras pas la nudité de ta sœur. On comprend très bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire tu ne coucheras pas avec ta sœur, c'est un interdit. Et donc le terme de nudité est utilisé comme une métaphore, en l'occurrence. Il est vrai que le corps des femmes en particulier doit être couvert. Et c'est vrai pour le judaïsme, c'est vrai pour le christianisme, c'est vrai aussi dans le monde grec et dans le monde romain. S'il y a un corps qui peut se dénuder, c'est celui des hommes. Et c'est pendant une période très très particulière, c'est durant la domination hellénistique. Parce que les hommes, à la palestre, naturellement pas dans les lieux publics, à la palestre, les hommes sont nus. Et naturellement, la palestre est interdite aux femmes. Ils sont nus, ils peuvent et ils doivent lutter nus et faire les exercices sportifs nus. Et alors là, il y a quelque chose qui est tout de même assez amusant, c'est-à-dire que lorsque l'hellénisation s'étend sur le monde palestinien, enfin sur la Palestine, des juifs décident de participer aux jeux grecs. Et donc, ils se présentent eux aussi à la palestre ou sur les stades nus.
Et ils sont choqués. Ils ne sont pas choqués du fait que les Grecs soient nus.
Dans un premier temps, effectivement, ils ont été choqués par le fait que les Grecs étaient nus. Mais ils réservent aux Grecs une surprise encore plus grande qui va choquer encore plus les Grecs, c'est qu'ils sont circoncis. Et la vision d'un homme nu circoncis est extrêmement choquant pour les Grecs parce que il révèle une partie du corps humain qui est le gland qui ne doit pas être vu. Et il ne doit pas être vu tellement que il existe chez les athlètes grecs un petit lien qui le kinodème qui permet d'empêcher que dans l'effort par mégarde cette partie du corps puisse être révélée. Et donc que va-t-il se passer? Un édit va être promulgué par les autorités grecques interdisant aux athlètes circoncis de se produire en public. Et ils vont se faire refaire le prépuce. Alors tout dépend le talent avec lequel la circoncision a été faite, mais dans certains cas, ça devient possible. Et ça paraît être une anecdote, ça n'en est pas une. Pourquoi? Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles une très puissante révolte judaïque à l'encontre de la culture hellénistique et du pouvoir hellénistique va se mettre en place. Et l'une des raisons qui est donnée, c'est écrit dans la Bible judaïque, c'est ils ont construit des stades et ils se sont fait refaire le prépuce. C'est l'une des raisons qui va générer cette révolte.
Alors, je reviens un peu au bain, parce que c'est une partie qui est extrêmement intéressante, dans la mesure où, comme vous le disiez, c'est un lieu de sociabilité. Quand est-ce qu'apparaissent les premiers savons? Avant, on se baignait avec des huiles, des parfums. Quand est-ce qu'apparaissent les premiers savons?
Ils apparaissent assez tardivement. En fait, ils apparaissent à partir du moment où les Romains envahissent la Gaule. Parce qu'ils découvrent effectivement un mélange de cendres de hêtre et de graisse de chèvre qui, mélangée, permet de produire de savon. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas lavé avant cette période-là, mais on s'est lavé avec des produits qui variaient. En fonction des régions.
Les Gaulois graissaient leurs cheveux, hein, si mes souvenirs.
Alors tout le monde graissait ses cheveux en réalité. Et avant, on se lavait. Alors en Égypte avec du natron, qui était un sel qui était récupéré sur les bords de certains lacs au nord d'Alexandrie. On utilisait de l'argile, hein, qui est encore utilisée aujourd'hui pour utiliser des produits naturels pour se laver les cheveux, etc.
Quelle est la plus belle anecdote, Fabrice Agacian, que vous... Alors, il y a de nombreuses anecdotes dans le livre. J'ai particulièrement apprécié, je ne m'en souvenais plus, du fameux bain de Bethsabée.
Oui.
Racontez pour nos auditeurs le bain de Bethsabée.
Eh bien, le roi David, donc, est le premier roi qui véritablement fonde la royauté judaïque. Le roi David se promène un jour sur le toit terrasse de son palais et on imagine que il voit en contrebas une femme en train de se baigner. Elle lui paraît tellement belle que il la fait venir à lui. Mais il se trouve que c'est la femme de l'un de ses soldats. Il la fait venir à lui et il la séduit, c'est-à-dire qu'il couche avec elle. Et quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, elle lui avoue qu'elle est enceinte. Il est tellement épris d'elle qu'il s'arrange pour que son mari, et il se comporte pas de manière très très belle en cette occasion, pour que son mari serve au premier rang de l'armée qui est en train de combattre, et fatalement il finit par se faire tuer. Il épouse en tout cas Bethsabée, et de cette relation naîtront des enfants, en particulier Absalom, qui se révoltera plus tard contre son père. Mais c'est là qu'on voit que le bain que prend Bethsabée est en réalité probablement un bain de purification, qu'elle vient d'avoir ses règles ou qu'à la fin de la période d'impureté à la suite des règles qui dure un certain temps et qui est probablement en période de fécondité, ce qui explique qu'ils aient suffi qu'ils couchent ensemble une fois pour qu'elles soient enceintes.
Alors à l'opposé de cet univers, il y a l'oubli total du corps, et vous le présentez, peut-être le meilleur exemple qui soit, ce sont les anachorètes, les stylistes, ce qu'on a appelé les stylistes, c'est-à-dire des hommes qui ne se nourrissent quasiment pas et qui restent constamment, j'allais dire, en prière et en méditation.
Oui, alors vous donniez en introduction à notre entretien, vous parliez de cette haine du corps concernant le christianisme. En réalité, les choses sont peut-être nées à ce moment-là. La haine du corps n'est pas dans les textes fondateurs du christianisme, et que ce soit d'ailleurs ni dans la littérature patristique, c'est-à-dire des pères de l'Église. Par contre, elle est chez les anachorètes. Elle est chez ces gens qui se réfugient à partir d'un certain moment dans le désert et qui d'ailleurs préexistent à la période chrétienne et qui, tel Simon le stylite, décident à un certain moment, pour ne pas être ennuyés par les foules qui viennent les voir et leur demander éventuellement de faire des miracles, qui se réfugient au sommet d'une colonne sur laquelle il va vivre pendant des dizaines d'années.
Eh bien, c'est sur cette image de spiritualité pas très, j'allais dire, pas très engageante, parce que ça devait être assez ennuyeux, que nous allons nous quitter, Fabrice Agacian. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Beauté sacrée, les soins du corps dans les trois livres, Bible hébraïque, Nouveau Testament et Coran. Un ouvrage paru aux éditions du Cerf avec une iconographie splendide. Vraiment, ça peut être un très très beau cadeau. N'hésitez absolument pas, avec un texte très riche à la croisée de toutes ces civilisations et de leur richesse elle-même. Je voudrais remercier Marine qui m'a aidé à réaliser cet entretien, et bien sûr Georges à la technique et au montage, et vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro des Grands Entretiens.